Vous écoutez On lit pour vous.
L'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 19 février 2024 dans La Presse. À la mi-février 2024, la coroner Jeanne Kamel a posé une question très pertinente lors de l'enquête publique sur la mort de la policière Maureen Brault, tuée par un récidiviste violent, maintes fois libérée, au nom du principe de non-responsabilité criminelle. Elle a demandé à quoi sert le fait que la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec, CETM, impose des conditions aux patients si ceux-ci ne subissent souvent aucune conséquence s'ils ne respectent pas les dites conditions. La CETM est ce tribunal administratif qui décide du sort des citoyens qui ont été jugés non criminellement responsables de leurs actes pour cause de troubles de santé mentale. Le meurtrier de la policière Brault, Isaac Brouillard-Lessard, était un habitué des arrestations pour des gestes violents. Il avait même agressé sa psychiatre deux fois. Avant de tuer la policière Brault, il avait cassé la gueule de son concierge. Ça n'a pas été suffisant pour qu'il soit interné. Tout ça alors qu'il avait été renvoyé en société par la CETM. Cette commission peut imposer des conditions de remise en liberté, par exemple celle de ne pas consommer de drogue. Le meurtrier de Mme Brault en consommait abondamment au mépris de ses conditions, ce qui amplifiait ses délires et sa violence. Mais Brouillard-Lessard ne faisait pas l'objet d'un suivi serré de la part du système de santé qui, comme chacun le sait, est déjà surchargé. Je souligne ceci. Dans l'immeuble qu'il habitait, tout le monde avait peur de Brouillard-Lessard. La coroner Kamel a posé cette question sur l'utilité de la CETM le mardi 24 février 2024. Mais par une épouvantable ironie du destin, ou alors un sinistre sens du timing, Fabio Puglisi, un homme au profil semblable à celui de Brouillard-Lessard, aurait assassiné deux jours plus tard, deux personnes, dont sa mère, en plus d'en massacrer une troisième à coups de couteau. Fabio Puglisi était, lui aussi, passé dans le filtre imparfait de la CETM par le passé à deux reprises. Je cite La Presse. En 2020, la Commission d'examen des troubles mentaux, CETM, avait d'ailleurs été chargé d'évaluer l'état mental de M. Puglisi, qui était alors accusé d'avoir vendu un faux tableau de Riopel sur le site Kijiji. L'accusé, en raison de son état mental, ne représente plus un risque important pour la sécurité du public, avait conclu l'organisme à ce moment. M. Puglisi, qui avait été hospitalisé pendant un mois à la suite d'une agression contre un automobiliste sur l'autoroute dans un vécu délirant paranoïde en 2011, présentait des progrès notables, notamment du fait qu'il était bien entouré. Il prend la médication comme prescrit. D'ailleurs, il conçoit qu'il va beaucoup mieux en prenant ses médicaments, lit-on dans la décision. Une semaine avant les deux meurtres du 15 février 2024, Puglisi avait, semble-t-il, agressé une passante qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam en pleine rue, à Vaudreuil-Dorion, près de l'immeuble où il est soupçonné d'avoir tué sa mère et une voisine. Je souligne ceci, bis. Dans l'immeuble qu'il habitait, Puglisi faisait peur. Des gens refusaient de monter dans l'ascenseur avec lui. Je sais bien que la psychiatrie n'est pas de la physique, que ce n'est pas une science exacte. Je sais bien que la prison n'est pas l'endroit où garder des gens qui entendent des voix dans leur tête, qui se prennent pour le Christ ou qui croient sincèrement que le voisin veut les tuer. Je ne dis pas qu'il faut enfermer quiconque souffre d'une maladie mentale. Mais si vous parlez aux psychiatres qui ont une connaissance minimale de la dynamique de violence, ils vous diront ceci. Le meilleur prédicteur de la violence à venir, c'est la violence passée. Or, Fabio Puglisi avait agressé, en 2011, un automobiliste lors d'un délire paranoïde, et cette condition avait justifié qu'il soit déclaré non criminellement responsable. Deux semaines avant l'événement, il était accusé d'avoir agressé sans raison une inconnue en pleine rue. Il a été arrêté et remis en liberté. Et pouf! Une semaine plus tard, Puglisi était accusé d'un double meurtre. Pourquoi n'y a-t-il pas un drapeau rouge dans le dossier de ces individus, justement au nom du principe que la violence passée est un bon prédicteur de la violence à venir? Pourquoi Fabio Puglisi n'a-t-il pas été interné pour évaluation dès son arrestation pour avoir agressé une inconnue en pleine rue, vu son passé violent? Pourquoi ce laxisme excessif? Ce genre de scénario funeste se répète régulièrement au Québec. Et la coroner Kamel est en train d'en tracer les contours dans une enquête publique sur la mort d'une policière de la SQ. Le scénario va comme suit. La CETM libère à l'aveuglette, même quand un malade ne respecte pas des conditions de toute façon inapplicables par des travailleurs sociaux débordés, la police ignore totalement qu'un accusé de gestes violents a déjà été déclaré non criminellement responsable. Et pouf, le dit malade violent et récidiviste finit par tuer son père, sa mère, son voisin ou de parfaits inconnus. Et je ne m'attarde même pas à cet autre angle mort du système médico-judiciaire. Le malade qui n'a jamais été déclaré non criminellement responsable, mais qui a des comportements inquiétants qui font l'objet d'une dénonciation de ses proches. Que dit la police? La police dit « Désolé, on ne peut rien faire. Il n'a rien fait. » Et le lendemain, ou le surlendemain, la police arrête pour meurtre celui dont on disait qu'il allait disjoncter. Il a tué à coups de couteau, à coups de barre de fer. C'est un problème grave. Le système médico-judiciaire qui décide de libérer des malades violents au nom du principe louable de non-responsabilité criminelle est aveugle, sourd et muet sur les récidivistes violents. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, et même si elle le savait, vous savez, le malade a droit à la confidentialité de son dossier. Au cœur de ce système, une CETM qui n'a pas de statistiques sur le nombre de ses clients libérés qui finissent par tuer autrui plus tard. Comme toujours dans cette province, compiler des statistiques est une tâche trop compliquée pour nos institutions. Il faut donc se résoudre à compiler des anecdotes à la mitaine. Voici les noms de quelques personnes abattues ou blessées par des malades violents qui n'auraient jamais dû se trouver hors d'un hôpital psychiatrique ces dernières années au Québec. James Jardin, Chantal Cyr, Annie Baillargeon, Gérard Lalonde, Suzanne Desjardins, Weeping Ding, Chong Soon Yuen, André Lemieux, Mohamed Belhaj, Alex Lévy-Crevier, Jacques Côté, Maureen Bro. Faites-moi signe si j'en oublie. Je sais que c'est fou d'avoir à le dire, mais je le dis quand même. C'est formidable, le respect des droits des malades violents récidivistes ou des gens qui ont des comportements menaçants dictés par des amis imaginaires. Mais le voisinage et l'entourage de ces gens-là ont aussi le droit de vivre sans crainte de se faire poignarder, tirer au fusil ou écraser par une auto par quelqu'un qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. C'était « L'hôpital psychiatrique à ciel ouvert », un texte de Patrick Lagacé, paru le 19 février 2024 dans La Presse.
Quand les parcs et les pistes cyclables creusent les inégalités. Un texte de Mélina Nantel paru le 31 octobre 2022 dans Pivot. Montréal est marqué par des iniquités territoriales dans la répartition de ses espaces verts et de ses pistes cyclables. C'est du moins le constat que fait une récente étude qui s'est penchée sur ces deux éléments ayant un impact direct sur la santé des citoyens-citoyennes. Avec plus de 184 km de pistes cyclables, des écoquartiers et des ruelles vertes en expansion, la région de Montréal est sur la voie du verdissement. Mais l'étude du groupe de recherche universitaire Interact démontre que les réels bénéficiaires de ces investissements sont généralement logés dans des quartiers aux populations plus favorisées et blanches. Par contraste avec des quartiers que l'on connaît comme plus nantis, comme le centre-ville et le plateau Mont-Royal, des secteurs plus au sud à Longueuil ou encore à Anjou seraient quant à eux très en retard en matière d'espaces verts et de pistes cyclables. Depuis 2011, soit les écarts se sont maintenus, soit ils ont légèrement augmenté. Au bas de l'échelle figure l'arrondissement de Montréal-Nord, qui comporte le moins de pistes cyclables de la métropole. Alors que l'arrondissement abrite une grande proportion de personnes appartenant à des minorités visibles, l'étude dresse aussi un lien entre quartiers racisés et faible présence de verdure et d'espaces verts. L'embourgeoisement comme facteur d'influence. Amélioration de la qualité de l'air, réduction des îlots de chaleur, meilleure santé mentale et physique. La liste des bénéfices liés au verdissement d'un quartier est longue. Une corrélation existerait également entre verdissement et réduction de la criminalité, selon une précédente étude. La proximité de pistes cyclables aurait également des bienfaits notables sur la santé générale des citoyens-citoyennes. Mais ces bénéfices ne sont pas répartis également au sein de la ville, et ce, malgré une nette augmentation des pistes cyclables et des espaces verts dans la dernière décennie. Les secteurs gentrifiés ont été davantage verdis et ont donc rattrapé en partie leur retard, note Yann Kesten, chercheur principal de l'étude. Par contre, les secteurs déjà moins verts en 2011 n'ont pas autant profité du verdissement que les quartiers plus favorisés. Conséquence, soit les écarts se sont maintenus, soit ils ont légèrement augmenté. Pour orienter les investissements publics, il faut déjà avoir un certain pouvoir d'influence, ce qui n'est pas donné également à tous, toutes. Si l'embourgeoisement a un lien avec l'environnement bâti, le sens de la corrélation reste toutefois à prouver. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. À savoir si l'embourgeoisement engendre des investissements dans l'environnement bâti ou si les changements dans l'environnement bâti d'un quartier pourrait encourager de nouvelles communautés à s'y installer et à l'enrichir, explique Jan Kesten, dont l'équipe de recherche étudie encore cette question. Des inégalités territoriales aux causes historiques. La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, se dit peu surprise des résultats de l'étude. Les causes de cette iniquité sont complexes, car elles s'inscrivent dans l'histoire des arrondissements et touchent toutes les sphères, politiques, économiques, sociales. Historiquement, les populations immigrantes ont posé leur bagage dans les quartiers industriels et plus enclavés de la ville, ce qui aurait occasionné des inégalités de santé observables encore aujourd'hui. Un constat que confirme Jan Kesten. Mais les inégalités ne se reproduisent pas toutes seules et sont reconduites par des choix politiques. Quand on parle de pistes cyclables, c'est certain que les investissements d'infrastructures plus rentables sont dans les quartiers plus centraux, où il y a beaucoup d'emplois. Ça permet à un plus grand nombre de circuler. Et cet impératif contribue à exclure d'autres territoires. L'aspect politique des investissements serait en cause, selon Michael Saint-Pierre, urbaniste au Centre d'écologie urbaine de Montréal et partenaire de l'étude. J'explique souvent à mes étudiants et étudiantes que l'urbanisme est la seule pratique dans laquelle les praticiens et praticiennes ne prennent aucune décision. Ce sont les élus qui les prennent, témoigne celui qui enseigne à l'UQAM. L'urbaniste défend d'ailleurs que, pour orienter les investissements publics, il faut déjà avoir un certain pouvoir d'influence, ce qui n'est pas donné également à tous, toutes. Dans bien des milieux défavorisés, où on remarque moins d'investissements en environnement bâti, il y a bien souvent des enjeux de sécurité alimentaire, d'accès aux logements abordables, de francisation, et ainsi de suite. Les individus n'ont pas toujours les moyens, les ressources ou les connaissances requises pour se mobiliser et faire pression auprès des élus. Il faut mieux analyser les retombées. On pourra ainsi prendre de meilleures décisions. Si les arrondissements ont de plus en plus d'importance pour répondre aux enjeux de société, elles n'en ont pas forcément les moyens, croit le chercheur Jan Kesten. Une grande part des investissements relève de la ville-centre et de l'agglomération. Notre capacité financière est franchement insuffisante et nous ne détenons pas toutes les compétences, explique Christine Black. C'est la ville de Montréal qui a le pouvoir de décider du développement du réseau cyclable. L'importance de mieux analyser les investissements. Si les investissements des dernières années démontrent que la ville a à cœur le verdissement, pour Michael Saint-Pierre, il est impératif que la question d'équité territoriale soit au cœur des discussions liées aux investissements. Actuellement, le budget participatif de la ville de Montréal compte un critère d'équité territoriale. Tranquillement, c'est en train de se faire, croit l'urbaniste. Le chercheur Jan Kesten espère de son côté que l'étude permettra d'encourager une meilleure compréhension des retombées liées au développement urbanistique. Il constate que, bien souvent, il y a des investissements, mais pas de monitorage ni de suivi. Nous avons des données et la capacité de récolter davantage d'informations. Il faut mettre en place des systèmes pour mieux analyser les retombées. On pourra ainsi prendre de meilleures décisions d'investissement qui contribuent à une réelle équité territoriale. C'était « Quand les parcs et les pistes cyclables creusent les inégalités », un texte de Mélina Nantel paru le 31 octobre 2022 dans Pivot.
La psychologie à la rescousse du climat, un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 février 2024 dans La Presse. Depuis près de 40 ans, Robert Cialdini est le pape de la psychologie de la persuasion. Le psychologue américain veut maintenant convaincre la population de changer ses habitudes pour contrer les changements climatiques. Les changements de comportement nécessaires pour sauver la planète sont importants, explique le professeur de l'Université d'État de l'Arizona en entrevue avant sa présentation à la réunion de l'AAAS. Disséminer l'information ne suffira pas. Il faut motiver les gens à utiliser ces informations. L'une des études de M. Cialdini a comparé l'impact de deux campagnes de sensibilisation au gaspillage de l'eau. La première indiquait que 48 % des étudiants mettaient en pratique certains comportements anti-gaspillage, comme fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. La deuxième ajoutait que cette proportion avait augmenté de 37 % depuis 2 ans. La seconde campagne a conduit à une consommation d'eau réduite de 30 % par rapport à la première campagne. Il s'agit de l'application de l'un des 6 principes de la persuasion, décrit en 1984 par M. Cialdini dans Influence, un livre qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires et a été traduit en 48 langues. Les gens sont très sensibles aux normes sociales, dit-il. Si un comportement minoritaire est de plus en plus répandu, il est tentant de l'adopter pour éviter d'être parmi les derniers à ne pas respecter ce qui semble devenir une norme universelle. Marketing, publicité et vente. Monsieur Cialdini a décidé de consacrer sa carrière à l'étude de la persuasion après s'être fait vendre un abonnement à Sports Illustrated à l'université. Je n'avais pas beaucoup d'argent et ne m'intéressais pas beaucoup au sport, mais j'avais généralement de la difficulté à dire non. Le vendeur m'avait dit que Sports Illustrated était considéré comme le meilleur magazine sportif par les experts du domaine, que beaucoup de mes voisins au dortoir universitaire s'était abonné et que c'était le dernier jour d'un tarif promotionnel. Il avait utilisé 3 des 6 principes que j'ai fini par identifier dans Influence: citer des experts, invoquer des normes sociales et donner une impression de pénurie. Pour isoler ces 6 principes, M. Cialdini s'est inscrit à des cours professionnels dans des domaines où la capacité à persuader autrui est cruciale: les ventes, la publicité, le marketing et les relations publiques. Chaque domaine avait l'impression d'avoir une recette différente des autres, dit-il. Mais j'ai vite compris qu'il y avait des éléments communs, ces 6 principes. Les 6 principes de la persuasion, selon Robert Cialdini. Réciprocité. Si on donne quelque chose à quelqu'un, il se sentira obligé de redonner. Pénurie. Si un bien ou un service existe en quantité limitée, il devient plus désirable. Autorité. L'appui d'experts rend une proposition plus convaincante. Cohérence. Pour faire accepter un gros changement, mieux vaut commencer par un petit pas. C'est le principe du bras dans le tordeur. Affinité. On dit plus souvent oui à quelqu'un qui nous plaît. Renforcement social. Si un comportement est de plus en plus populaire dans la société, il devient plus désirable. Depuis la publication d'Influence, M. Cialdini a mené plusieurs études pour confirmer la validité de ces 6 principes. Par exemple, une serveuse qui donne des menthes avec la facture a un pourboire plus élevé, principe de réciprocité. Ou alors, les conseils d'un médecin sont plus suivis s'il affiche son diplôme dans son bureau, principe d'autorité. Il a été conseiller comportemental pour les campagnes électorales de Barack Obama et d'Hillary Clinton. En 2016, il a ajouté un principe de persuasion à ses 6 principes de persuasion. si on établit d'abord une proximité avec la personne que l'on doit convaincre en lui montrant qu'on fait partie d'un même groupe, la persuasion est facilitée. Sceptique. Peut-on utiliser la science de la persuasion pour convaincre les climato-sceptiques d'adopter des comportements anti-changement climatique? S'il s'agit simplement de gens qui ont des habitudes bien ancrées, on peut essayer de faire appel aux normes sociales, répond M. Cialdini. S'il voit que de plus en plus de gens ont changé leurs habitudes, par exemple, régler la température du chauffage plus bas pendant la nuit, il pourrait être disposé à changer. Pour les gens qui remettent en question le consensus scientifique voulant que la planète se réchauffe et que l'activité humaine en est responsable, on peut faire témoigner un ancien sceptique converti. Un climato-sceptique qui a perdu sa maison dans des inondations sans précédent pourrait être convaincant. Il faut aussi répondre à la désinformation, non pas en l'ignorant, mais en démontrant sa fausseté. Un contre-argument est toujours plus convaincant qu'un argument, dit M. Cialdini. Quand on donne la parole à un chercheur climato-sceptique, il faut bien préciser que c'est un point de vue très minoritaire parmi les scientifiques. Mais si on démonte son argumentaire, ce sera plus convaincant pour les climato-sceptiques que si on réitère simplement le consensus scientifique climatique. Crise de la reproductibilité. Depuis une dizaine d'années, la psychologie comportementale est frappée par une crise de la reproductibilité. Plusieurs études, souvent celles qui sont menées auprès d'étudiants, ont été contredites. Certaines analyses ont fait état de 50% d'études dont les résultats n'ont pas pu être reproduits. Cela remet-il en question les théories de M. Cialdini? La grande leçon de la crise de la reproductibilité est l'importance de faire des études dans le vrai monde, pas seulement avec des étudiants. Mais la plupart des études fautives étaient mal conçues. Si on prend seulement les études avec une bonne méthodologie, 80% des résultats tiennent la route. Et mes études ont été reproduites plusieurs fois. C'était « La psychologie à la rescousse du climat », un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 février 2024 dans la presse.